Votre truc à vous, c'est la cuisine japonaise? Sushi? Ramen? Vous aimeriez tester tous les menus B4 de votre quartier? Heureusement, avec l'abonnement Deliveroo Plus Or, vous cagnotez 10% de crédit à utiliser sur vos prochaines commandes. Et ça tombe bien, vous comptiez vous faire livrer un shirashi pour la suivante. Oh non, des donburi. Avec l'abonnement Deliveroo Plus Or, cagnotez 10% sur vos commandes restaurant de 25 euros minimum et cumulez des euros. Et en plus, les frais de livraison sont offerts. Deliveroo? Ah, là on est bien. Conditions de l'abonnement Deliveroo Plus Or et ses avantages à retrouver sur le site Deliveroo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Ce qui a plus motivé mon départ de la Guinée, c'est le décès de ma mère. Voilà. Et de base, j'ai jamais voulu quitter la Guinée, quitter mon pays, parce que honnêtement, j'aime trop mon pays. Je voyais aucune raison qui me pousserait à quitter le pays en ce moment. Sauf que entre-temps, ma mère, elle est tombée malade pendant 4 ans. C'était vraiment un moment très difficile pour elle et pour moi. Le problème quand elle est tombée malade, c'est qu'on ne savait pas de quoi elle souffrait. Et du coup, elle souffrait le martyre, mais nous, on ne pouvait pas l'aider. Et je me suis senti tellement impuissant que j'ai dit, peut-être que je vais décider de faire la médecine parce que je ne veux plus jamais me retrouver dans une situation pareille. Et donc, c'est surtout à chaque fois que je pense à mes difficultés à l'école, je me rappelle pourquoi je veux faire ça.
Il y a peut-être une liaison qui a été faite, c'est pas un mot, je suis heureux. Mais le mot c'est heureux. Même si tu fais une faute, c'est pas grave. Je m'appelle et heureux. Ça, je t'écris le mot.
Vous pouvez me la lire la phrase?
Aujourd'hui il fait beau. Alors, là, et je suis heureux.
C'est hyper important.
Jeunesse africaine en exil, épisode 4. L'école, l'ultime refuge.
Comment on l'appelle cette lettre-là?
Raphaël Kraft.
C'est presque ça. Mais
David Jakubowiez.
La lettre là, c'est E. Ouais. Et si vous dites E, le problème, c'est pas pour vous embêter, c'est que vous allez confondre avec ça. Et ça, avec l'accent, du coup, ça va vous jouer des. Après, ça va être problématique. Ça, c'est important de faire un effort. Je sais que c'est compliqué au niveau de la prononciation, mais ça, c'est E.
E.
Ok. Est-ce que vous pouvez essayer de le dire ça?
E.
Voilà. Et ça?
E.
Et ça?
E.
Et ça?
E.
Plus rapidement avec un peu de musique. E. E. Ok, c'est le problème. Aujourd'hui, sur. Ok. On continue.
Oui.
Alors là, on est à Aubervilliers, on est dans un squat.
Louis, bénévole au Midi Dumi.
Et donc ça fait quelques temps qu'on a investi du coup ce bâtiment dans lequel en fait il y a des cours et d'autres ateliers. En gros, toute la semaine, il y a des activités l'après-midi. Et le dimanche, vraiment, c'est un peu le grand événement avec le cours de français et tout le monde vient. Donc là, on a quand même, je pense, 80-90 jeunes le dimanche. Yes.
Je m'appelle Barry Boubacar.
Quel âge avez-vous?
J'ai 16 ans.
Et vous venez de quel pays?
Je viens de la Guinée-Conakry.
Ça fait longtemps que vous êtes en France?
8 mois comme ça.
Et vous vivez où?
Je vis dehors. Depuis que j'ai arrivé jusqu'à présent, je passe par tous les moyens pour aller à l'école. Pour que j'apprends quelque chose. Parce que depuis que j'étais en Guinée, je n'ai pas eu de moyens pour aller à l'école et tout. Donc ça c'est mon premier rêve d'abord. Donc,
ça veut dire que vous allez le mercredi à tel cours, samedi à tel autre? Et le dimanche, vous venez ici?
Oui, vendredi à Koukou, mercredi, samedi à Ethiopia, dimanche à Aubervilliers.
Vous êtes allé un petit peu à l'école quand vous étiez en Guinée?
Non, pas du tout.
Alors comment avez-vous appris à lire et écrire?
Comme c'est mon rêve, depuis mon ami sont des élèves. Des fois, je peux aller même à l'école. Je reste dehors avec d'autres amis, on est en train de jouer le foot. Quand ils sortent, on est en train de discuter comme ça. On m'a dit, pourquoi toi tu viens pas? J'ai dit, c'est mon père, il n'a pas de moyens. Parce que mon père, il a tombé malade depuis. Chez nous, on reste à la maison pour aider nos mamans. Faire comme ça, c'est, ouais, c'est pour cela. Manque de moyens.
Pourquoi vous avez décidé de partir en aventure?
Première chose, moi je voulais étudier une PSI, même si j'ai... Je ne comprends pas beaucoup de choses. Je comprends pour écrire mon nom et mon nom de famille et lire.
Vous avez prévenu vos parents quand vous êtes parti ou vous ne les avez pas prévenus?
Non, mon père est décédé. Oui. Ma mère était courant, mais elle ne voulait pas, mais même pas de soir. À parce que s'il était courant, non, elle n'accepte pas.
Vous avez peut-être envie de vous installer pour travailler maintenant?
Oui, oui, j'ai envie de ça parce que je suis venu pour ça.
Vous voulez quoi, les mathématiques, le français?
Oui, le français d'abord parce qu'on est en train d'écrire les phrases d'abord. Des noms comme le lac, les protes, comme ça les carottes, les toilettes, comme ça un peu.
Je crois que le jeune homme est bon pour cette table.
Il est bon pour cette table? Tu veux me t'installer avec nous ici? Ok, alors...
Merci.
C'est moi.
On manque un peu... Alors, viens, viens.
Tu peux t'installer là. Je t'apporte un cahier, un stylo maintenant.
Ok, okay monsieur. Merci.
Comment on dit, je viens d'arriver et j'ai le plus beau bob de Paris au passé?
Au passé.
T'as écrit quoi? Je... Ouais.
D'arriver,
mais il manque pas quelque chose. Ça, c'est un... Regarde.
Non, ça va, vous êtes...
Ça, comme lettre, c'est quoi, ça?
Isabelle Rigoni, vous êtes sociologue, spécialiste des questions migratoires. Lorsqu'un jeune arrive en France, selon nos engagements internationaux, on doit lui reconnaître sa présomption de minorité, et cela implique à la fois un hébergement, à la fois un accès à la scolarisation. Je pense à des jeunes qui arrivent, ils ont 16 ans, et il se passe des mois, voire des années, avant qu'ils commencent enfin à aller à l'école.
Oui, oui, tout à fait. Ce temps d'attente peut être vraiment très très long pour des jeunes, et d'autant plus long pour des jeunes qui vont arriver relativement rapidement à l'âge de la majorité, où d'autres questions d'ordre administratif notamment vont se poser par rapport au droit au séjour. Évidemment, l'obligation de scolarisation et le droit à la scolarisation existent en France pour les jeunes de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Seulement, ce qu'on oublie souvent, c'est que au-delà de l'âge de 16 ans, la France a aussi une obligation à former tous les jeunes qui n'ont obtenu auparavant aucune formation qualifiante ou diplômante. C'est la loi, la loi française dit que ces jeunes doivent être accueillis, même au-delà de 16 ans, dans un établissement scolaire pour obtenir soit une formation qualifiante, soit une formation diplômante.
Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'un jeune arrive ici et qu'il n'est pas reconnu mineur à l'issue de son entretien, il va attendre des mois son recours pour être reconnu mineur ou pas, et qu'à l'issue de cette reconnaissance de minorité, il va encore attendre des mois pour être scolarisé.
Oui, ce temps d'attente est extrêmement long, effectivement, pour la plupart des jeunes. Alors, il y a quelques jeunes qui arrivent, effectivement, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, et là, leur minorité est quand même difficilement contestable. Donc, ceux-là ont un temps d'attente généralement plus court, mais c'est vrai que ceux qui sont déjà au milieu de leur adolescence, qui ont 15, 16 et encore plus 17 ans, peuvent attendre très longtemps, un an et demi. Le record qu'on a vu sur le terrain, c'était 2 ans et demi avant de pouvoir être scolarisé.
Vous étiez à l'école en Guinée avant de partir?
Oui, j'étais à l'école, mais j'ai arrêté l'école parce que ma mère est tombée malade. Presque personne s'occupait d'elle, parce que c'était chacun pour soi, Dieu pour tous, comme on dit.
Mohamed, citoyen guinéen, lycéen.
Et donc, voilà, c'est moi qui ai arrêté les cours, c'est moi qui faisais à manger. On va dire, c'est moi qui faisais tout, quoi.
Vous avez arrêté l'école en quelle classe?
J'ai arrêté l'école avant le lycée. C'est pourquoi ça a été très dur pour moi, quand je suis arrivé en France, de repartir, de me relancer.
Donc lorsque vous quittez la Guinée, votre objectif c'est de subvenir aux besoins de vos petites sœurs, et pour ce faire, il faut que vous alliez à l'école.
Exact. Je savais quand j'ai quitté la Guinée que j'allais directement venir en France. Ça c'était clair dans ma tête. Parce que j'avais pour ambition de faire des études, et donc je me disais le meilleur pays pour moi c'était la France. Et c'est toujours la France.
Quand est-ce que vous arrivez en France ?
Oh, je suis arrivé en France en février, juste avant le Covid.
Février 2020, donc.
2020, oui. Je suis arrivé à 22h à Paris. Et c'est curieux parce que j'ai accosté aussi en Espagne à 22h.
Donc vous arrivez à Paris à 22h, avec pour objectif de faire médecine.
J'ai vu la Tour Eiffel. Ah, c'était très beau. Mais... En vrai, pour être honnête, je savais pas du tout comment m'y prendre. Tout ce que je savais, c'est que j'allais faire des études de santé. Ça, c'était clair. Mais comment m'y prendre, c'était compliqué. Et donc, j'étais perdu au milieu de... Mais nulle part pour moi. Parce que c'était complètement un endroit, un univers différent.
je captais rien du tout. Et quand je suis arrivé à Reims, je suis resté, j'ai dormi, on va dire, 2 jours à la gare. Ouais. Et c'est une dame qui m'a surtout, on va dire, entre guillemets, forcé à aller voir la police. Alors que c'est, voilà quoi, l'endroit que j'évite le plus, c'est les commissariats et tout ce qui est police. Voilà. Mais elle m'a dit, ici, la police, elle protège.
C'est la police marocaine qui vous a traumatisé.
Ouais. C'était horrible ce qu'on a vécu.
Donc après 2 jours à dormir dans la gare de Reims, vous allez finalement voir la police.
Ouais.
Ils vous reçoivent bien ?
Oui, à ma grande surprise. J'étais là, je tremblais de peur, quoi. Parce que je me dis, déjà je me méfie de la police, et là je vais rentrer dans un commissariat. Alors ici, même s'ils vont me découper, c'est moi qui l'ai cherché.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui se passe, c'est que je suis arrivé à l'accueil et le monsieur il m'a dit qu'est-ce que je voulais. Et j'ai dit simplement j'avais nulle part où aller. Et le monsieur il m'a dit, si ça fait combien de temps je suis arrivé, on a établi un peu la chronologie. Et là, c'est parti très vite et très simple. Ils ont directement appelé le foyer, le Chalon. Et dans la soirée, ils sont venus me chercher direct.
De Chalon en Champagne.
Ouais. Il y a eu un éducateur qui est Mathieu, mon éduque. Il est venu me chercher. Il essayait de me remonter un peu le moral, de me rassurer que ça, là, ça va. Avant, ça n'allait pas, mais maintenant, ça va commencer à aller. Que j'étais un peu en sécurité, quoi. Les premières semaines, je dormais pas. Je dormais par terre. Il y avait le lit, mais je n'avais pas pris l'habitude, je n'avais pas dormi dans un lit pendant 1 an, quoi. C'était sur le caillou, sur la terre, sur le sable. Et c'est comme si c'était une peur de dormir dans le lit, quoi. Et je mettais le drap par terre et je dormais par terre. On va dire pendant plus de 2 semaines. C'était comme ça avant que je m'habitue à ce que... Parce qu'en fait, il y avait ce truc qui me disait « t'habitues pas trop ». Parce que ma vie, ça a été une succession de cauchemars, quoi. Donc, si tu t'habitues trop à dormir dans un lit, là, tu vas souffrir là, quand tu vas partir.
Et donc, à quel moment on vous parle de l'école ?
Quand je suis arrivé, mon éducateur, Mathieu, franchement, il m'a énormément aidé. Il était là à tout le temps leur parler de moi pour leur dire à quel point je peux faire des études. Et donc, c'est parti comme ça. Ils ont pris le rendez-vous au CIO.
Centre d'information et d'orientation.
Exactement. J'ai fait le test. Après, ils m'ont trouvé une place à Vitry-le-François, de François 1er, dans un CAP.
Mamadou Diallo, vous êtes étudiant, citoyen guinéen. Lorsqu'on vous envoie dans un lycée professionnel, on vous laisse le choix de la filière ? Comment ça se passe ?
Non, du tout. J'ai fait un certain nombre de choix. Ils m'ont orienté sur HPS, le bac que j'ai fait.
HPS, c'est ?
Hygiène, propreté et stérilisation. Ils m'ont envoyé là-dessus. C'était pas mon choix, du tout.
C'était quoi votre choix ?
J'ai parlé d'être avocat. Ils m'ont dit là, carrément, c'était pas possible.
Pourquoi c'était pas possible d'être avocat ?
Ils m'ont dit, c'est beaucoup d'études, j'ai pas le niveau et l'école n'est pas sur Chalon. C'est ces arts d'argument qui m'ont envoyé de suite. Donc j'ai dit ok, donc ça c'était écarté et puis j'ai fait d'autres choix. Et tous mes 3 choix n'ont pas été pris. Non.
Quand vous vous retrouvez en HPS, hygiène, propreté, stérilisation, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous êtes déçu ?
Honnêtement, oui. Parce que quand on est à l'école, on fait ce qu'on appelle atelier. Atelier, c'est d'aller apprendre un peu manuellement à manipuler les machines, tout ce qui est monobrose, tout ce qui est aspirateur et tout. Je me suis dit, ok, là, je suis mal parti, là. Et après, je suis allé faire un stage. Je me suis retrouvé à nettoyer des toilettes pour la première fois. Ça, j'ai pas aimé.
Nos enquêtes montrent effectivement que ces jeunes isolés sont quand même très souvent orientés vers des filières professionnelles.
Isabelle Rigoni, sociologue spécialiste des questions migratoires.
Parce que certains ont un petit niveau scolaire et donc effectivement ça va être compliqué pour eux, en dépit de leur volonté de se former dans tel et tel métier ou d'occuper tel et tel emploi, vont avoir effectivement du mal à partir en filière générale par exemple, même s'ils le souhaitent. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que même des jeunes qui ont été très bien scolarisés dans leur pays d'origine, qui arrivent avec un bon niveau scolaire, un bon niveau de langue française, ont finalement presque tout autant de difficultés à intégrer une filière générale en lycée s'ils le souhaitent, parce que l'image qu'on a des jeunes, alors qu'on a, quand je dis on, c'est les personnels de l'éducation nationale parfois, mais aussi et peut-être même surtout les travailleurs sociaux qui les accompagnent, ont une perception de la nécessité de passer par telle ou telle filière. Très souvent, les travailleurs sociaux disent pour qu'un jeune, lorsqu'il arrive à sa majorité, à ses 18 ans, puisse rester en France, il doit suivre une formation qualifiante, donc une formation professionnalisante, parce que c'est ce qui va lui permettre d'obtenir rapidement un emploi, et cet emploi va lui permettre de demander un titre de séjour, justement, et de l'obtenir peut-être pas forcément plus facilement, mais moins difficilement que s'il avait suivi une filière classique.
Ici, en France, tu es toujours dans le projet de t'en sortir. Et ça, par tous les moyens. Donc, médecine ou pas, il faut que tu t'en sortes déjà. Voilà. Peut-être que j'étais dans mon délire de sauver tous les malades du monde. Et l'esprit de ma mère par la même occasion. Et sauf que dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Voilà.
Sachant que Mathieu, votre éducateur, vous lui parlez de votre souhait et de votre rêve de faire médecine.
Oui, il était au courant. Mais après, j'ai compris que ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour Mathieu, c'était ça l'objectif. Pour lui, l'objectif, il fallait que je trouve tout de suite soit un apprentissage ou un diplôme. Et après, être régularisé. Et plus tard, repartir.
Et vous le compreniez, ça ?
Pas trop, je ne le comprenais pas. Parce qu'en fait, j'arrêtais pas de me dire, il est en train de remettre en question mon projet, quoi. Et donc, je lui ai dit, moi, ce que je vais faire, c'est être dans la santé. C'est faire un métier de soins. Et il m'a dit, OK. Après, je me suis retrouvé dans un CAP à TMFC, assistant technique en milieu familial et collectif.
Et pour vous, c'était du soin, ça ?
Je ne savais pas trop, donc j'essayais de faire confiance à Mathieu.
Votre éducateur ?
Oui. Sauf que, excuse-moi du terme, on va dire, il me l'a fait à l'envers parce qu'il savait que j'allais... S'il m'avait expliqué le CAP à TMFC en profondeur, j'allais mais tout de suite refuser.
Donc il vous a dit oui, c'est un peu du soin quand même.
T'inquiète, tu vas faire du soin. J'ai dit merci Mathieu, non, franchement, t'es mon sauveur. Voilà, il était mon sauveur, mais en même temps il était autre chose. Parce que c'est parti comme ça, c'était pas du tout un métier de soin. Je me retrouvais à gratter des sols, à faire le ménage et tout, mais il y avait une partie qui me plaisait, c'était la partie cuisine. Et j'avais préparé presque toute mon enfance, c'est moi qui m'occupais de la cuisine quand j'étais avant de quitter le pays. Donc je savais comment m'y prendre avec un four, quoi. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas quitté le CAP à TMFC. Hein. Parce que si c'était que ce que je faisais, que gratter le sol et tout le reste, non mais j'allais partir, mais tout de suite.
La médecine s'éloigne dans votre tête à ce moment-là ?
Ouais, honnêtement, ouais. Ça a commencé à s'éloigner. Et je l'ai pas retrouvé pendant, on va dire, 6 mois, quoi. Tout au plus. Parce que là, j'étais dans mon CAP. Je m'ennuyais à mort et je voyais pas une autre option de rattraper la médecine, quoi. Du coup, j'étais là, j'essayais de passer le temps, d'être sérieux parce que les profs, ils m'appréciaient, j'étais discret, je parle pas trop. Donc, ça a fait que je suis resté.
Vous passez en première et puis...
En juillet 2020, j'ai mis 18 ans.
Et là, que s'est-il passé le jour de vos 18 ans ?
Une semaine avant, on m'a convoqué à l'ASUE.
Mamadou Diallo.
J'y suis allé.
Citoyen guinéen.
Et ils m'ont fait savoir qu'il faut que je libère ma chambre.
Étudiant à Châlons-en-Champagne.
Ça doit être lundi ou mardi, à 11h, le jour où j'ai mes 18 ans. Pourquoi ? Il dit, ah, j'ai 18 ans maintenant et il estime que je peux me débrouiller seul. Donc ils sont plus obligés de me garder et puis voilà.
On appelle ça une sortie sèche.
D'accord, je viens de l'apprendre.
Je ne sais pas.
On m'a juste dit de libérer la chambre, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà.
Et là, vous vous retrouvez dehors?
Oui, tout de suite. Mais j'avais des amis dans le foyer, c'est là que je dormais. Hein. Ils venaient contrôler les soirs à 22h. Donc moi, j'ai rentré soit dans les toilettes ou au placard le temps qu'ils finissent de contrôler. Et puis j'y reviens. Hein. C'est ce que j'ai fait pendant quelques jours avant d'arriver en famille d'accueil.
Alors que s'est-il passé ensuite?
Mais ensuite, on partait jouer au foot. Quand on est descendu de l'étage, il y avait la voiture de Marie-Pierre qui était là. Il y a un de mes amis qui m'a dit « Ah, parle-lui de ton cas. » Bah, je lui ai salué, on ne se connaissait pas personnellement.
C'est qui Marie-Pierre?
Marie-Pierre, c'est... Elle dirige une association, c'est RSF, quelque chose comme ça, j'ai oublié le signe.
Alors, je m'appelle Marie-Pierre Barrière et je suis professeure de français dans un collège à Châlons-en-Champagne, maman de 3 enfants et engagée au réseau Éducation sans frontières dans ESOP et chez EOL depuis 2008 pour RESF. Voilà.
Donc réseau et Éducation sans frontières, ce sont des parents qui aident des enfants étrangers lorsque ceux-ci sont menacés par l'administration d'être envoyés dans leur pays. ESOP, c'est quoi?
C'est l'association d'hébergement solidaire qu'on a créée en 2019, avec des copains de Châlons et de Reims, pour accueillir des jeunes qui sortaient de prise en charge sans sortie sèche quoi, de l'aide sociale à l'enfance. Et puis EOL, c'est une association que j'ai cofondée avec... Catherine Lise Dubot, pour accompagner des jeunes MNA et anciens MNA, jeunes majeurs qui souhaitent faire des études supérieures. Au départ, on avait imaginé, bon, il y a eu des prises en charge à l'hôtel, on a payé des appartements meublés, et puis très rapidement, on s'est rendu compte que les besoins étaient tels que c'était pas suffisant, mais surtout que c'était vraiment important que les jeunes prennent place dans des familles, parce que ils le disent eux-mêmes, hein, que ça facilite grandement leur intégration. Et donc, à partir de 2016, on a eu du monde à la maison, quoi. En dépannage d'abord, hein, on mettait des matelas dans le salon. Et puis, très vite, c'est devenu du permanent. Et bon, le premier que j'ai eu pendant 3 ans, c'est Koroba. Voilà, il faisait partie de la famille, quoi. Donc, le dépannage est devenu une installation. Et aujourd'hui, je reviendrai pas en arrière, quoi. Dans certains départements, et c'est le cas dans la Marne, il n'y a pas de contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans. De ce fait...
Est-ce que c'est un contrat jeune majeur?
Alors un contrat jeune majeur, ça implique que la prise en charge soit poursuivie pour que le jeune puisse aller jusqu'au bout de son diplôme. Il est vrai ici que par rapport à certains dossiers de jeunes méritants sérieux et qui vraiment présentent toutes les caractéristiques d'une intégration réussie, les contrats jeunes majeurs peuvent durer jusqu'à la fin de l'année scolaire par exemple. Hein? Mais il y a forcément un moment où ça s'arrête et pas forcément lorsque le diplôme est validé et surtout pas forcément lorsque le jeune ou le projet du jeune a été mené à terme. Donc si nous on n'est pas là et si nous en tant qu'associatif on ne prend pas le relais, ben, le projet du jeune va forcément avorter, quoi. Et ça, c'est dommageable, c'est très très dommageable.
Donc Marie-Pierre vous appelle, qu'est-ce qu'elle vous dit Marie-Pierre?
Oui, qu'elle a trouvé une famille d'accueil qui va prendre quelqu'un. Est-ce que ça me dirait d'y aller? La famille, elle est prête, donc tu peux venir... Ça doit être un vendredi soir, quelque chose comme ça. Je suis allé chercher mes affaires et on est venu ici. Moi, j'appréhendais beaucoup de choses, mais tout s'est fait tout seul. Et ça fait 4 ans que je suis là.
Donc vous arrivez chez Sylvine et ses 3 filles.
Oui.
Comment ça se passe, cette arrivée, ce premier jour?
Déjà, on va parler du chien. Quand on est arrivé à la porte... Marie a sonné, j'ai entendu le chien, j'ai dit, ah ouais, quand même.
Vous aviez peur?
Au début, oui. Aujourd'hui, ça va, on est bien. Et quand je suis arrivé, tout était prêt. Hein. La chambre où je dormais, tout était prêt. Et je m'en souviens bien, j'étais assis là. Ils m'ont demandé, t'as pas une question à nous poser? J'ai demandé, est-ce que je peux aller chez mes amis? Ah oui, oui, t'es libre, tu fais ce que tu veux, hein, t'as 18 ans. Est-ce que je peux faire ma prière? Oui. Pourtant, c'est pas des croyants. C'est incroyable.
Vous pouviez vous servir dans le frigo?
Mais comme je veux. Il n'y a pas un débat là-dessus. Il n'y a aucune barrière. Aucune. En tout cas, à mon égard.
Est-ce que votre vie de lycéen a changé dès lors que vous vous êtes retrouvé dans cette famille d'accueil?
Oui, ça a complètement changé.
Pourquoi?
Tout de suite, on m'a fait savoir si j'ai un devoir ou quoi que ce soit, ou tout ce qui ne va pas, que ce soit dans ma vie perso ou à l'école ou ailleurs, de les informer tout de suite. Donc il y avait cette confiance et voilà, je me sentais protégé, quoi. C'est une vraie chance, honnêtement. Sur ce point-là, je ne peux pas les remercier. Ah si, non, c'est juste merci, ça s'arrête là. Parce qu'il n'y a pas un autre mot aussi.
Entre-temps, il y a eu mon prof principal, M. Mirjolet, de CAP.
Le professeur d'art plastique.
Oui, c'est ça. Je suis allé le demander, je suis allé le voir, pour savoir si je pouvais faire autre chose qu'un CAP. Parce que franchement, je m'ennuie à moi. Et il m'a dit, oui, c'était possible. Qu'est-ce que je voulais faire?
Mohamed.
Il dit, soit bac logistique.
Citoyen guinéen.
Ou réseau informatique.
Élève au lycée François 1er à Vitry-le-François.
Et où, si je pouvais faire infirmier? Ah, il m'a dit tout ce que je propose, il n'y en a pas au lycée. Du coup, c'était soit partir du lycée ou rester au lycée, essayer de rattraper une branche générale, quoi, pour pouvoir être infirmier et puis passer plus tard à médecin. C'était ça l'idée. Et il m'a dit, bah, lui, il sait pas trop, mais il va m'accompagner voir mon CPE. C'était en terminale CAP et j'avais 17 de moins, alors que je travaillais presque pas.
Que dit Barcelo, le CPE?
Ah, le Barcelo, il dit, bah, Mirjolet lui parlait un peu de moi parce qu'il me connaissait pas trop. Il est sérieux, il bosse bien, il est intelligent, il est poli. Et il dit qu'il veut tenter de faire logistique ou être infirmier. Et il m'a dit, pour être infirmier, il faut aller en général. Il m'a dit scientifique. C'est plus compliqué, c'est plus dur, c'est plus difficile. Mais c'est la voie pour être médecin ou infirmier. J'ai dit ok. Il m'a proposé, M. Barcelo, d'aller voir Mme Menu dans la même journée.
Donc, la principale adjointe.
Elle s'attendait pas à nous voir débarquer dans son bureau.
Et
oui, c'est parti très vite, très fort et très serré. Et j'ai intégré une classe de première. Mais franchement, c'était très dur au début. Les cours, le programme de maths, wow, ça me passait au-dessus de la tête. Et c'est allé, j'ai retourné voir Mme Menu pour lui dire, finalement, je vais arrêter. C'était trop pour moi.
Et que vous dit Madame Menu?
Ah oui, elle m'a mis un coup de pied au cul, comme on dit. Parce qu'elle a dit, c'était pas possible. Mohamed, ça, c'est un projet. Donc, tous tes profs sont investis. On va pas arrêter ça maintenant. Enfin, elle disait ça pour rigoler, mais c'était juste pour me dire que ce que je suis en train de faire, c'est important. Il faut prendre du courage et persévérer. Et franchement, si elle m'avait dit oui, j'aurais accepté que je ne suis pas fait pour la médecine.
Quand on a fait le bilan et que j'ai demandé l'avis de l'équipe enseignante pour la poursuite du projet, ils m'ont dit, mais oui, 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 y a pas photo. Il faut vraiment qu'il poursuive et qu'il tente sa chance.
Sandrine Menu, proviseur adjointe du lycée François 1er à Vitry-le-François.
Donc il a passé son CAP, il l'a eu bien évidemment avec brio. Et nous, ce qu'on lui a proposé, c'est de l'inscrire en première générale et technologique l'année suivante. Et puis l'année dernière, il s'est avéré qu'il a passé son bac français à l'écrit et à l'oral, et il a eu 15 de moyenne. Donc on a eu raison de le motiver un peu et de le pousser. Et puis, les retours des enseignants sont extrêmement positifs sur son sérieux, sur son attitude, sur ça. Donc c'était une très belle aventure, en tout cas.
Vous avez l'air ému.
Ben, ça l'est, parce que c'est pas forcément tous les jours. On a un élève déjà qui toque à notre porte et qui nous dit « moi, je suis en CAP, mais je veux être médecin ». Alors, on en a qui ont des ambitions un peu farfelues. Mais pour le coup, on a eu raison de l'accompagner. Et puis que lui s'accroche surtout à ce qu'il avait envie de faire. Alors, ça a évolué, parce qu'entre le « je veux être médecin », après, il va pas aimer quand je vais dire ça, mais il a voulu aussi s'occuper des cailloux. Pour la SVT, là, tout ce qui était géologie. Ah oui, donc il n'aime pas quand je dise des cailloux. Donc je sais que ça va le... Mais non, ça évolue. Et puis je pense que, voilà, pour le coup, on va être sur une très belle réussite au bac et avec une très très belle histoire. Donc on sera ravis de lui donner son diplôme à la rentrée.
Avant d'aller en général, j'ai demandé au foyer. J'étais mineur en ce moment. J'ai allé voir mon éducateur Mathieu. Je lui ai dit, moi je vais aller en général. Il m'a dit, non mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. J'ai dit, si, tout est déjà classé quoi. Il m'a dit, d'accord, c'est simple, ils vont faire un courrier à la préfecture. La préfecture, il faut qu'elle accepte que tu sois dans une filière générale. Et là, la préfecture a refusé que je sois dans une filière générale. Oui.
Pourquoi?
Parce que c'était pas fait pour moi. Tu peux pas faire ça. Parce que quand tu viens, il faut que tu sois régularisé. Si tu te lances dans des études comme ça, c'est peut-être dur. Et je me rappelle même ma référente, Madame Clicot, de l'ASE, elle m'appelle.
De l'aide sociale à l'enfance.
Ouais. Elle m'appelle pour me dire, Mohamed, on a reçu ton courrier, mais tu peux pas faire ça. Mohamed, tu peux pas faire des études. Il faut trouver un travail, il faut faire un CAP. C'est ce qu'elle m'a dit.
Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Vous vous dites quoi? Vous vous dites, je peux pas parce que je suis comme ça? Et si je suis comme ça, c'est vous êtes quoi en fait?
Oui, à un moment oui, ça se dit oui. Parce que je suis parti de rien, niveau études, niveau moyens, finances, que dalle. Donc forcé, je suis né dans une famille pauvre. Et donc on réfléchit comme un pauvre. Donc forcé, quand on tente quelque chose un peu plus grand et qu'on nous dit « Non mais tu peux pas faire ça », on donne tout de suite raison à cette personne parce que on n'a pas connu mieux.
Et donc le jeune Mohamed, qui veut devenir médecin depuis la disparition de sa maman, qui l'ont contraint à quitter la Guinée, il a eu la chance de tomber sur vous. Vous vous souvenez de ce jour où vous l'avez rencontré ?
Alors, je me souviens très bien parce qu'en fait, c'est le cuisinier de mon collège qui m'a dit « Madame Barrière, il y a un jeune qu'on a en stage là et ce matin, il n'est pas venu travailler parce que en fait, il n'a plus d'endroit où dormir. »
Marie-Pierre Barrière, professeure de français et militante RESF.
Et donc, j'ai chopé le numéro de téléphone et donc je l'ai appelé, je lui ai dit « qu'est-ce que tu fabriques ? Il faut que tu reviennes à ton stage, quoi. Il faut que... Parce que là, il était reparti dans l'idée qu'il allait faire un apprentissage, parce que vu qu'il avait plus de sous, plus d'argent, plus rien, il fallait qu'il trouve un patron, quoi. Je dis non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas aller jusqu'à la fin de ton diplôme, donc tu reviens au stage. Et c'est là que je l'ai rencontré dans ma voiture, et on a discuté, allez, 15 minutes. J'ai dit, mais attends, toi, t'es en CAP. Il me dit, oui, je suis en CAP. Il me dit, mais attends. Oui, mais bon, les profs, quand même, ils disent que je pourrais faire mieux, que je pourrais faire plus. Bon, donc, j'aimerais bien continuer mes études. Donc, je lui dis, mais attends, on va s'occuper de toi, mon gars. Tu vas aller rendre tes chaussures de sécurité, déjà, hein, parce qu'il était en stage avec des chaussures de sécurité. Je lui dis, non, tu vas aller les rendre et tu vas pas faire de la maçonnerie, parce que là, il faut que tu continues, quoi.
Quels sont ses besoins à ce moment-là?
Ah bah il a besoin juste qu'on lui dise vas-y fonce mon gars quoi. C'est tout. Juste il veut étudier. Donc si on lui dit vas-y fonce, il y va quoi.
Oui, enfin il n'empêche que il mange, il dort comme tout le monde.
Bien sûr. Ah oui, il a été pris en charge à l'internat du lycée et le week-end on prend le relais, le week-end et les vacances.
Mais oui, voilà, bah, évidemment, il faut assurer le matériel. Et un enfant qui étudie, il a besoin de livres, il a besoin de tranquillité mentale. Donc, il ne faut pas qu'il ait sa croûte à gagner pour être disponible, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que vous lui apportez, vous ?
Bah, je ne sais pas. On lui apporte la sécurité pour qu'il puisse apprendre. Et puis on essaye d'assurer son parcours. Ben, y a quand même encore quelques étapes administratives à franchir, puisqu'il n'est pas régularisé encore. Donc ça, on suit le dossier administratif. Et puis ben moi, modestement, je pense que je lui apporte un petit peu d'amour. Parce que je l'aime beaucoup, Mohamed. Et ça, voilà, c'est des histoires de vie qui vont... Ça va continuer, quoi. On n'a pas d'horaire de bureau dans notre association.
En même temps, Mohamed, qui est en pleine révision du bac, qui commence à s'interroger sur ses choix Parcoursup, va se retrouver au tribunal dans l'espoir de lever cette QTF, ce qui n'est pas forcément source de sérénité.
Non, bah c'est ça. Hein. Il faut être sacrément charpenté pour gérer à la fois l'exigence des études et puis le stress de la situation administrative. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a une part de foi dans tout ça, mais ça va forcément finir par venir. Enfin, donc, quelles sont tes priorités ? Enfin, les priorités, c'est de poursuivre ta scolarité. Après, le reste, ça viendra, quoi.
Heureusement que c'est toujours rangé.
Ouais.
Où est-ce qu'on se trouve ?
À l'internat de Moivre, bâtiment de Moivre, à Vitry-François, au sein du lycée, dans la chambre de Mohamed.
Et vous pouvez vous présenter ?
Christophe, assistant d'éducation depuis 2020.
Donc voici votre chambre, Mohamed.
Mm-hmm. Oui, c'est ma piole, oui. L'année dernière, j'étais seul, mais cette année, je suis avec un camarade, un collègue, un ami et un frère aussi. Parce que voilà, à peu près, on est dans la même situation, on est dans la même galère. Lui, il était au foyer à Saint-Dizier, et maintenant, il a plus rien et il est un peu partout. Donc, et on s'est connus l'année dernière. Et tout de suite, on s'est reconnus et puis voilà, on s'est pas séparés. Même tout de suite, là, on a mangé ensemble à midi. Et voilà, donc c'est lui qui est là et moi, je suis de ce côté.
Quand vous dites c'est mon frère...
C'est mon frère parce qu'il est africain, déjà, pour commencer.
Christophe, c'est votre frère aussi ?
Non, Christophe, c'est un tonton. Christophe, c'est... Voilà. Christophe, c'est le chef de l'internat. Donc Christophe, c'est pas mon frère. Il est plus que ça. Mais Fousséni, lui, c'est mon frère. Parce qu'il est malinqué, puis en plus, on parle la même langue. Okay. Donc, on se reconnaît sur tous les points, quoi.
Christophe, est-ce que vous tenez compte du fait que ces jeunes sont loin de leur famille, isolés, dans les rapports, les interactions que vous pouvez avoir avec eux ?
On voit, selon leur attitude, si tout va bien ou pas bien. Ouais. Alors, donc, on en prend compte, on discute avec eux, on en parle, on essaye de trouver des solutions, les orienter vers les bonnes personnes, pour que le problème se règle le plus positivement possible. Mais dans trois quarts du temps, ils sont toujours positifs, quoi qu'il arrive.
Vous pouvez me décrire votre chambre, Mohamed ?
Il n'y a pas grand-chose à part un lit, un bureau, une table, enfin une chaise, et deux armoires, un pour moi et un pour... Zéné, bah, tu veux une description. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Oui, il y a aussi, évidemment, bien sûr, pour une chambre, il faut aussi une douche.
Ah, c'est une suite présidentielle, en fait.
Ouais.
Avec votre salle de bain pour vous ?
Pour trois. Il y a aussi un frère qui est là, mais lui, il est blanc. Mais okay. Tu vois, lui aussi, c'est mon frère. Élisée, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Et quand il est venu, c'est moi qui l'ai invité à ma table. Tu vois, c'est moi qui l'ai aidé à s'intégrer. Tu vois, donc j'ai des frères africains, j'ai aussi des frères blancs.
On continue la visite.
Il faut savoir aussi pourquoi j'aime pas me balader avec un micro et deux gars de France Culture, parce que Christophe le sait, et tout le monde n'est pas au courant de notre situation.
Ce que vous me dites, Mohamed, c'est que vous essayez au maximum de rester le plus neutre possible.
Exactement. Pas pour nous, mais
en
aussi.
Même temps, vous avez des copains ici. Ils savent la situation dans laquelle vous êtes.
Honnêtement, j'ai un petit, Lucas, lui aussi, c'est mon petit frère. Bref, j'en ai plein, des petits frères blancs. Mais bon, il n'est pas vraiment au courant. Il connaît pas les parties qui posent problème, quoi. Donc, j'essaye de ne pas trop l'inquiéter par rapport à ma situation et de rester positif, de ne pas casser l'ambiance, quoi. Voilà.
Mais pardon d'insister, Mohamed, mais les amitiés qui se créent, elles se créent sur des échanges intimes, elles se créent sur une confiance mutuelle.
Tout à fait. Oui, mais être un bon ami aussi, c'est de savoir chercher l'intérêt de l'autre. Et forcément, plus tu lui parles, plus ça va lui travailler. Et peu à peu, ça va détruire votre amitié sans le savoir, quoi. Et comme ça, il va prendre la distance pour juste respirer. Parce que, un, il peut pas t'aider, et deux, il peut pas l'enlever dans sa tête. Et donc, ces deux choses vont faire en sorte que ta sincérité, ça servira à rien. Donc, mieux vaut garder ce côté pour nous et essayer, à chaque fois qu'un ami a besoin d'aide, je suis présent. Pour moi, c'est ça l'amitié, c'est pas raconter sa vie pour embêter l'autre et surtout l'empêcher de réfléchir à autre chose que ta vie. Et surtout, surtout, s'il peut pas t'aider. C'est ça le pire.
Mohamed était assez pudique, donc au début j'ai eu un petit peu de mal à savoir exactement comment était sa situation, et puis après voilà, il y avait un état de confiance, et puis il m'a parlé directement, voilà, toutes les difficultés qu'il avait. Donc c'était le train pour se déplacer, les vêtements, les frais scolaires, toutes ces choses-là que nous on a pris en charge. C'est-à-dire que la cantine, l'internat, c'est une solution pour lui, pour pouvoir continuer ses études, tout simplement.
Yvette Hamdi, secrétaire d'intendance au lycée François 1er à Vitry-le-François.
Il avait du mal à venir me voir pour me dire qu'il avait besoin d'une aide vestimentaire. C'était juste des vêtements. Il avait besoin de vêtements. Donc vous voyez un élève qui, en période d'hiver, il n'a pas de manteau et ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Donc ça a été un peu le côté un peu dur, ouais. Après le reste, c'était que de la communication, c'était plutôt agréable de l'entendre dire « Ok, là c'est bon, ça va, je vais m'en sortir », c'était, voilà. Parce qu'il a quand même, c'est un battant.
Madame Menu, la proviseure adjointe, nous disait que le mercredi après-midi, il faisait le tour des popotes ici, dans le bâtiment, pour dire bonjour à tout le monde, raconter sa situation. On dirait que c'est vous, sa famille, en tous les cas sa famille en semaine, parce qu'il a une ou des familles le week-end.
Je dirais presque oui, parce que quand il vient nous voir, on ne s'attend pas, il vient, comme si c'était naturel pour lui. Et nous, ça nous fait plaisir quoi, de voir un élève comme ça, avec ce contact facile. Donc on l'a pris un peu sous notre aile, quoi, je dirais. C'est tout simplement ça.
C'est souvent le cas pour ces jeunes ou l'éducation nationale, le lycée, le collège, que sais-je, on dirait que c'est une espèce de havre, une espèce de refuge.
Quand vous voyez et vous connaissez leur histoire, quand ils ont connu la rue, ils se sentent bien, ils se sentent en sécurité.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous souhaitez ajouter, Madame Hamdi ?
Important ? Non, vous savez, je ne suis qu'une simple secrétaire d'intendance. Je vois juste des élèves, comme je vous ai dit, qui passent et... J'ai vu beaucoup d'élèves dans le même cas que Mohamed. C'est des élèves qui, à un moment donné, ont été considérés majeurs. Du jour au lendemain, ils sont partis. Parce qu'ils sont majeurs et qu'ils n'ont plus d'endroit où aller. Et on n'a pas d'informations. On ne sait pas ces élèves-là où ils sont. C'est très difficile à vivre. Alors je vais vous dire comment j'ai appris, c'est simplement en générant des factures. Quand on génère des factures, on dit non, cet élève n'est plus dans le lycée.
Et comment vous avez appris pour Mohamed, sa majorité et son expulsion du foyer où il était logé ?
Bon, c'est Mohamed qui est venu me le dire. C'est Mohamed qui m'a parlé de ses difficultés. C'est pour ça que je vous dirais, c'est pas du hasard, mais parce que comme Mohamed communique, on a eu ces informations. Et bien donc on a été sensibilisés et on a essayé de faire quelque chose. Mais pour d'autres, on n'a rien pu faire.
Alors on se trouve juste au sortir du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en compagnie de Mohamed et de son avocat, Maître
Ménevray.
Qu'est-ce qui s'est passé là dans la dernière heure ?
Donc l'enjeu de l'audience aujourd'hui, c'était la légalité de l'obligation de quitter le territoire français de Mohamed, qui a cette obligation qui a été décidée par le préfet de la Marne. Et on en a discuté devant le juge et Mohamed a pu s'exprimer.
C'est la première fois que vous en avez une, Mohamed ?
Oui, c'est la première fois, oui.
Alors, on lui notifie une OQTF comme bon nombre de jeunes dans sa situation. C'est dès lors qu'il atteint l'âge de 18 ans, et malgré le fait qu'il soit scolarisé, on l'invite à quitter le territoire français.
Effectivement, c'est ça le plus choquant sur le plan humain, parce que ce sont des gens qui sont scolarisés. Mohamed, il est en terminale générale, scientifique, et on leur dit à vos 18 ans, vous devez quitter le territoire français. Alors qu'ils sont intégrés, Mohamed, ça fait plus de 4 ans qu'il est présent sur le territoire, et du jour au lendemain, ça bascule, et on leur dit, vous avez vos 18 ans, à la moindre irrégularité, donc là, le préfet a argué les papiers d'identité qui étaient viciés, entre guillemets, ou à d'autres éléments qui sont avancés pour édicter cette obligation de quitter le territoire.
On est au milieu de la semaine. Mohamed, vous aviez cours aujourd'hui ?
Oui, j'ai eu physique ce matin, jusqu'à 10h, oui.
Et vous avez dû venir au tribunal et manquer l'école pour ça ?
Ah oui, j'étais obligé. Enfin, entre guillemets, j'étais obligé parce que c'est mon audience. Et donc forcément, même si je suis représenté par un avocat, ma présence, ça compte. Et c'est pour ça que j'ai jugé nécessaire de me présenter, quoi, même si j'avais cours.
Vos profs, la direction du lycée dans lequel vous vous trouvez, ils sont compréhensifs par rapport à ça ?
Bah oui, ils sont tous d'accord avec moi. Ils m'ont même demandé si je veux qu'ils fassent grève pour que ça change. Je dis non, ça ne sera pas nécessaire, j'ai un avocat pour ça.
Et qu'est-ce qu'il a à défendre, Mohamed ?
Bah, Mohamed, il a à défendre le fait que ses papiers sont vrais et que le tribunal va lui donner gain de cause. Et il y a des fortes chances.
Mais il a la possibilité, nonobstant son irrégularité, de poursuivre des études.
Ah oui, alors en France, ça c'est à saluer. La scolarisation n'est pas liée à la situation régulière. Donc Mohamed peut tout à fait faire un parcours à la faculté sans avoir ses papiers. Je ne le souhaite pas, mais c'est une possibilité. La principale difficulté qu'on a, ça concerne les apprentis et les licences pro ou les BTS, parce que là, le maître d'apprentissage, le maître de stage, va réclamer les papiers. Mais pour un parcours général, effectivement, la possibilité d'étude est ouverte. Mais cependant, il y a une qualité de vie qui est quand même très stressante, parce qu'en cas de contrôle d'identité dans la rue, elle peut tout à fait être emmenée au commissariat. Ça, c'est toujours la difficulté. Hein.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter ?
Bah, je souhaite ajouter que ici, on est dans un département de la Marne qui est assez rural. Hein. On a Reims qui est la grande ville, autour c'est rural. On a besoin de population, on a besoin d'habitants. Et
on a besoin de médecins.
Et on a besoin de médecins, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'espère que la préfecture nous entendra aussi.
Mohamed, vous avez quelque chose à ajouter ?
Non, je crois que mon avocat, maître, il a tout dit.
J'ai mangé une année d'OQTF, en gros.
Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai mangé une année d'OQTF ?
Bah, c'est une année de stress au quotidien. T'es là, oui, il y a une fête, t'as envie de fêter, mais dans un coin de ta tête, t'es pas bien, quoi. Ouais, il y avait quelque chose qui manquait pour aller à fond, profiter à fond de tout ce que je faisais. On ne peut pas être serein avec... Enfin, moi, je ne pouvais pas être serein avec ça.
Mamadou Diallo, ouais, citoyen guinéen...
Parfois, je descendais à la gare, je voyais la police, je me disais, on me contrôle tout de suite, c'est mort.
Étudiant en BTS.
Donc, j'étais obligé d'être un homme normal et d'apparaître... C'est pour ça que je me coiffais à chaque fois. Il fallait être propre tout le temps parce que je ne voulais pas être contrôlé et puis j'étais en danger souvent.
De quelle façon cela affectait-il votre travail à l'école, votre concentration, vos résultats scolaires ?
Je me suis intégré, il fallait... des résultats scolaires. pour déjà être délégué de ma classe en 2 ans. Et il y avait des petites élections qui se faisaient, représentants administratifs, sécurité, hygiène et tout. Moi, j'y étais président. J'avais 3 postes différents. Et j'ai participé à des réunions. Du coup, j'ai eu la confiance des profs et à peu près tout le monde me connaissait. 0 problème. Et puis, oui, mais à un moment donné, ça faisait des flashbacks à chaque fois en classe. Surtout quand, parfois, si ça n'allait pas. Oui, j'étais obligé de me replonger dessus. Ça me faisait une sorte de barrière. Et voilà. Ça me déconcentrait, en gros, parfois.
Mamadou, quand il est en difficulté ou quand il est victime d'une injustice, ça le touche énormément.
Sylvine, dite Mamoun, hébergeuse de Mamadou, citoyen guinéen.
Mes filles, j'aurais plutôt eu tendance à leur dire « Bon, tu relèves les manches, tu rentres dans le tas ». Mamadou, il n'a pas cette possibilité-là. Mamadou, c'est lui apprendre à composer, à prendre du recul vis-à-vis des situations, à prendre sur lui. Voilà, c'est là la différence.
Quand Mamoun, Sylvine vous propose de continuer à vous soutenir dans la poursuite de vos études, qu'est-ce que ça a changé dans votre tête vis-à-vis d'elle par rapport à vous et votre avenir?
Alors, ça n'a pas changé, ça a augmenté quelque chose encore. En tout cas, ça m'a fait tellement plaisir, c'est une multitude de questions qui me venaient en tête. Ah, donc du coup, entre autres, elle a confiance en moi à ce point et elle attend quelque chose de moi à ce point. Donc il y avait tout ça qui me venait en tête. Je ne l'ai pas dit une fois encore, mais je me suis dit, ok, le déclic, ça venait de là, honnêtement, ça venait de là, donc fallait y faire.
Donc après la pression de l'OQTF, vous avez la pression de Sylvine, où vous devez absolument réussir.
Non, ce n'était pas une pression, du tout.
Enfin, une pression que vous mettez vous-même, en tout cas.
Et je ne me suis pas mis une pression, mais je me suis dit, peut-être, si je foire, elle sera déçue. Donc, mettre dans un coin de ma tête qu'on va se voir tous les jours, sachant que tu attendais quelque chose de moi et que je ne l'ai pas fait, que j'étais capable de le faire, je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut que j'ai le bac. Il fallait, à tout prix. Bien sûr, c'est pour moi. C'est moi qui vais en bénéficier toute ma vie. Mais peut-être, dans un coin de leur tête, oui, ils ont refait la vie d'une personne qui était, entre guillemets, perdue un peu.
Vous étiez perdu?
Ben oui, quand on vous dit dehors, à 18 ans, vous connaissez qui en France? Personne. Donc tout de suite, on reprend la rue. Tu sais comment ça va se passer après? Non. Donc tout ça, c'est une réalité.
C'est quoi les projets d'avenir?
Ben, pour l'instant, je finis mon BTS. Si jamais je l'ai, je vais faire une année de licence.
Jusqu'au jour où Mamoun, Sylvine, va vous dire « Bon, bah, ce serait pas mal que tu ailles en master, c'est ça ?»
Peut-être elle va vouloir que j'ai tous les diplômes du monde. J'en suis certaine. Mais on va faire étape par étape.
On en a déjà parlé une fois.
Oui, faut pas pousser fort. On a oublié.
C'est juste un... Ah ouais. Non, dans un mois, c'est pas...
Vous avez l'habitude.
Allez, on se met en route.
C'est-à-dire que Mohamed, il fait pas de bruit, mais... Il travaille.
Charles Suarez, professeur d'EPS au lycée François 1er de Vitry-le-François. Avant-hier, il passait l'oral de son option EPS. Vous étiez présent?
Oui, j'étais membre du jury. Hein. Pendant 6 mois, Mohamed a fait un dossier à l'écrit. Et l'objectif, c'est sur cette fin d'année, il avait 20 minutes d'oral.
C'était quoi le thème?
Donc son thème, c'était le football africain et le lien entre l'argent, la politique, le côté social et... Pourquoi l'Afrique et les jeunes Africains souffrent de ces difficultés en termes d'ascension sociale et comment le football est perçu comme un ascenseur social en Afrique pour les jeunes Africains. Donc effectivement, je vais refaire le point avec lui tout à l'heure, mais il avait quelque chose qui lui tenait à cœur à défendre, le fait que les jeunes Africains étaient souvent spoliés par les politiques, notamment sur la corruption, le détournement d'argent. Et on a senti que ça le touchait fortement, effectivement.
Là, ça va être ma troisième série, il faut faire 4 répétitions.
Ouais. Ah, il faut que tu termines comme ça, dans la même posture. Vas-y, Paul, mets-moi 60, s'il te plaît.
Comment ça se passe, les révisions, là, pour Mohamed, à quelques semaines du bac?
Comment ça se passe, de quel... Enfin, il...
Vous êtes inquiète
ou... Non, moi, je suis pas du tout inquiète. De base, je suis pas quelqu'un d'inquiet. Donc, non, moi, il travaille tout le temps. On lui a trouvé quelques cours particuliers pour consolider la physique et la SVT, qui sont ses deux spécialités. Donc, non, moi, je suis persuadée que ça va très bien se passer. Non, l'inquiétude, c'est plutôt pour Parcoursup, parce qu'il vise la PACES et je suis pas sûr. Enfin, ça, oui, la prépa médecine. Et là, c'est, peut-être qu'il aura que des écoles d'infirmiers, mais c'est déjà bien. Il faut qu'il soit, certes, ambitieux, mais que, quoi qu'il se passe, de toute façon, il a fait de son mieux, donc ça va aller, quoi. Ça va aller.
Bon, Mohamed, en plus, toi, c'est l'oral le plus récent, puisque tu es passé le dernier. Mm-hmm. On va d'abord commencer par ton bilan de ton oral. Quel plaisir de t'écouter. Alors, on sent que tu vivais ce sujet et que tu ressentais vraiment ce que tu disais. Quand tu nous parles de... L'Afrique est un vivier, mais l'Afrique n'est pas un stock, etc. Toi, des phrases hyper importantes. C'était excellent. Donc là, sur la note finale, on s'est mis d'accord sur la note de 18 sur 20. Okay, donc pour un oral terminal, c'est excellent. Pour ton grand oral, tu sais qu'il y a la forme qui est jugée. La forme garde cette forme-là. Okay. Alors, dans ton oral, les tout petits bémols, c'est parfois... Tu t'emportes tellement, tu vis tellement le sujet que parfois tu as même un langage qui est de temps en temps peu académique. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est vrai, bon, j'ai remarqué. Oui.
Voilà, mais oui. Mohamed, je l'ai eu en première quand il venait de CAP. On l'a vu évoluer petit à petit, et puis pour devenir l'élève de terminale qui va quitter le lycée avec un baccalauréat en poche. J'espère. Et voilà. En tout cas, les félicitations des professeurs. Merci. Donc pour nous, c'est le plus important.
Merci à vous aussi, ça me touche énormément.
C'était Jeunesses africaines en exil, épisode 4, L'école, l'ultime refuge. Un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jakubowiez.
Bonjour monsieur, c'est la préfecture qui vous appelle. En fait, je me permets de vous appeler parce que... Il y a un jeune, je crois que vous le connaissez, vous l'avez rencontré la semaine dernière, vous avez même été visiter son lycée avec ses profs et tout. Et donc, la préfecture de Chalon a décidé de lui accorder un titre de séjour. Voilà.
Avec Mohamed, Mamadou, Louis, Barry Boubacar, Isabelle Rigoni, Mamadou Diallo, Marie-Pierre Barrière, Sandrine Menu, Christophe, Yvette Hamdi, Romain Ménevret, Sylvine et Charles Suarez.
Et jusqu'à maintenant, je suis dépassé. Je ne sais même pas comment j'arrive à faire ce vocal pour te l'envoyer. C'est beaucoup pour moi. Je pense que je ne vais pas pouvoir dormir aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Je remercie Marie, je te remercie. Je remercie tout le monde. Je suis dépassé, quoi. Voilà. Franchement, c'est... Ouf.
Mixage Manon Houssin, chargée de programme Marivonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Johanna Bedeau. Retrouvez l'intégralité de la série en podcast sur le site et l'appli Radio France. Yeah.
Allons-y.